sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des fois, pour ceux qui sont mariés du moins, pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est peut-être aussi avec une bague que vous portez. Il y a des fois où j'ai les doigts un peu gonflés et j'aime bien enlever mon alliance. Mais ce qui se passe en général, c'est que pendant quelques jours, je la retrouve plus. Je suis... Il y en a qui disent oui, ça m'arrive aussi. Et c'est vrai que sans cette alliance, je me sens un peu tout nu. Et même vis-à-vis de Nancy, je suis un peu gêné. Elle me dit, où est ton alliance? Je ne sais plus, je l'ai perdue. Et heureusement, c'est pas quelque chose de grande valeur monétaire, donc c'est pas quelque chose qu'on va voler. Mais tout ça pour dire que c'est le même mot en français, l'alliance, et l'alliance dont nous avons déjà parlé, l'alliance de Dieu avec les hommes. L'alliance, c'est un beau symbole parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. L'alliance que l'on porte en tant que signe de mariage. Et c'est un mot, l'alliance, qui revient près de 300 fois dans la Bible. C'est un mot qui définit vraiment la relation que Dieu veut avoir avec les hommes. Dieu n'est pas un Dieu lointain, un horloger qui aurait mis toutes les choses en place et puis qui s'occuperait d'autres choses maintenant. Non, Dieu s'est investi complètement dans cette alliance. Une alliance, ça c'est la partie physique, le symbole de l'alliance, mais une alliance c'est un engagement qui définit les relations entre deux parties. Le petit Robert dit que c'est une union contractée par un engagement mutuel. Et c'est vrai que le mot engagement, c'est un mot qui fait peur aujourd'hui. On préfère l'union libre. Tout ce qui est contrat, tout ce qui est... Même pour les activités, l'aide que vous pourriez apporter, je sais que certains sont prêts à aider, mais ce qui fait peur, c'est de se dire, tous les dimanches matins, je dois être là à 9h30 pour aider à installer le matériel. Quelque part, nous sommes dans une génération où le mot d'engagement fait peur. On veut être libre de se retirer à tout moment. Et l'engagement, ça veut dire justement enlever la possibilité de se retirer. Donc dans le mariage, maintenant qui est remplacé ou qui est attaqué par l'institution du Pax, je ne sais plus ce que ça veut dire, pacte... Action civile, solidarité. Hein. Il y a un peu la même idée, mais c'est un peu moins contraignant. Une alliance, ça se contracte aussi entre pays, entre nations. On parle encore des alliés, quand on parle de la Grande-Bretagne, des USA, de moins en moins, maintenant qu'ils veulent faire leur bouclier Star Wars. Mais le meilleur exemple, c'est vrai que c'est le mariage. Et Dieu lui-même a souvent comparé sa relation avec son peuple d'Israël à une relation de mariage. Et si le mariage est tellement battu en brèche dans notre société, si le divorce fait qu'en fait il y a autant de, je crois qu'il y a autant de divorces chez les chrétiens que chez les non-chrétiens, c'est parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu, le mariage. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de sacré. Et lui-même, quand il veut montrer son engagement avec son peuple, dire combien il est prêt à les servir, il dit « Je t'ai épousé ». Dans Ézéchiel, par exemple, il parle d'Israël. Je passais près de toi, je te regardais, et voici que ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je te fis un serment, je contractai une alliance avec toi, et tu fus à moi, ainsi parle le Seigneur. Et donc Dieu, il voit sa relation avec nous, avec les hommes, de façon très solennelle, très sacrée, très sérieuse. c'est pas une passade, c'est pas quelque chose qu'il a. Combien de projets commençons-nous? Je sais que peut-être qu'il y en a parmi vous qui peuvent. Je commence des projets, puis ils restent inachevés. Dieu, son projet avec son peuple, c'est pas quelque chose qu'il considère comme un passe-temps qu'il va faire pendant quelques millénaires ou quelques générations, puis après il va passer à autre chose. Non, il s'investit complètement. Et cette alliance, elle est symbolisée au mont Sinaï par les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse. Nous allons voir aujourd'hui, dans Deutéronome, qu'il va y avoir un espèce de renouvellement de cette alliance, de cet engagement, dans le chapitre 29. Et on va voir que Moïse va prophétiser que l'alliance va être brisée par Israël. Dieu va devoir divorcer, en quelque sorte. Dans le prophète Osée, verset 2 du chapitre 2, il est dit « Plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa figure les signes de ses prostitutions, et de son sein les signes de ses adultères. » Le divorce, la séparation, c'est quelque chose qui fait très mal à l'homme, à la femme. Il est bon de savoir que Dieu a connu ça. Dieu est passé par là. Quelque part, le déchirement, les espoirs brisés, la peine, tout ça Dieu connaît. Il a souffert ces choses-là avec Israël, qui s'est livré à l'adultère. Alors l'adultère, bien sûr, c'est un terme qui représente l'idolâtrie de son peuple Israël avec de faux dieux. Et l'idolâtrie, c'est comme de la prostitution pour Dieu. Ne pas aller à la vraie relation, mais se contenter de choses qui ne sont que des faux semblants, des ressemblances. Et nous savons que Dieu a horreur du divorce aussi. Le prophète Malachi le disait, haïssable est la réputation, en parlant de la part de l'Éternel. Donc nous allons voir que cette alliance qui avait été établie sur le mont Horeb, verset 69 du chapitre 28, le dernier verset du chapitre 28, des fois, c'est peut-être dans la Bible anglaise, ça peut être le premier verset du chapitre 29. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Encore une fois, Horeb, c'est aussi une façon de désigner le mont Sinaï. Donc, c'est un renouvellement de l'alliance qui avait été caractérisée par les 10 commandements. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, et on le verra au fur et à mesure, Dieu a promis à Israël de l'aimer, de l'épouser. Et on sait que les promesses de Dieu, on peut compter dessus. Dieu nous a dit, jamais je ne t'abandonnerai. Rappelons-nous ça quand des fois nous sommes dans la détresse ou dans les situations difficiles. Toutes les promesses de Dieu. Il y a un petit livre qui parle des 400 promesses de Dieu. Il est disponible à la librairie évangélique. On en avait quelques-uns, je crois. C'est un petit livre qui m'avait touché parce que, quelle que soit notre situation, on peut trouver des promesses de Dieu qui s'adressent à notre situation. Que l'on soit malade, que l'on soit dans le péché, que l'on ait l'impression de jamais s'en sortir, que l'on ait peur pour nos familles, nos enfants, sa provision. Dieu a des promesses pour chacune de nos situations, de toutes les situations de notre vie. Et Paul dit que ces promesses, les appels de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, une fois que ça a été prononcé, on ne peut pas les rappeler. Nous, on est caractérisés par, on parle souvent beaucoup, Mais quand on a décidé, on retire. On dit, oh oui, mais c'est fini maintenant. Ça c'est... J'ai dit que j'étais posé jusqu'à que la mort nous sépare, mais ce que tu me fais vivre, c'en est trop, je te quitte. Et on va voir que Dieu promet à Israël, et je crois que c'est très important de bien considérer qu'il s'agit de promesses faites à Israël et non à l'Église. Alors c'est vrai qu'il y a le peuple de Dieu, c'est l'Église et le peuple d'Israël qui lui sont fidèles. Mais pour comprendre la Bible, il est très important de séparer les deux et de voir que, par exemple, dans Romains 10, 9, 10, 11, il y a des promesses qui sont spécifiquement faites à Israël. Pour comprendre la fin des temps, le livre de l'Apocalypse, si on mélange l'Église et Israël, on n'y comprend plus rien. Donc, Dieu promet à Israël de la refiancer un jour. Ça, ce sont les promesses que l'on trouve, par exemple, dans Osée, le prophète Osée, chapitre 2. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité. Donc, ces promesses que Dieu a faites à Israël, même si Israël les a complètement négligées, a complètement quitté Dieu, et en quelque sorte forcé un divorce, où Dieu les a laissés à aux conséquences de leur péché, de leur idolâtrie, Dieu est fidèle, il a fait des promesses solennelles à Abraham, Isaac et Jacob, et il ne va jamais revenir là-dessus. Et lorsque l'on étudie l'Apocalypse, on voit qu'un tiers d'Israël, le reste, va être béni. Il va y avoir une période de 1000 ans où Israël sera restauré, non seulement en tant que nation, mais en tant que emplacement géographique. Aujourd'hui, depuis 1948, Israël, fait unique dans l'histoire de l'humanité, est revenu après des millénaires dans leur berceau, dans leur pays initial. On voit des progrès qui sont faits au niveau des cultures. L'irrigation permet de récupérer des terrains. Israël est maintenant un des plus grands producteurs de fruits du monde. Et ça, ce sont simplement des prémices. Il ne s'agit pas de toutes les promesses dont nous allons parler. Mais Dieu, encore une fois, l'application pour vous, c'est que quelle que soit votre situation, vous pouvez compter sur les promesses que Dieu vous a faites. Il a dit qu'il va fortifier les genoux qui sont faibles, il va réparer les os. Le miel, très bon pour les os dans l'Ancien Testament. Lisons. Verset 1. Voici les paroles de l'Alliance. Donc, je reprends que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, au Pharaon, à tous ses serviteurs, à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces grands prodiges, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse s'adresse à des... Vous vous souvenez, on a dit qu'il avait probablement près de 120 ans au moment, puisqu'il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Les juifs à qui il s'adresse, les israélites, les plus âgés doivent avoir 60 ans, à l'exception de Moïse à 120 ans, et puis de Josué et Caleb, qui eux ont près de 80 ans. Et Moïse, encore une fois, rappelle tout ce que Dieu a fait. Et je crois que c'est aussi une indication pour nous aussi de nous rappeler dans notre vie tout ce que Dieu a fait. Peut-être qu'on se dit oh, ma vie avec Dieu, ça c'est pas grand chose, je vivote, c'est peut-être vrai, c'est triste, mais rappelez-vous où vous étiez avant d'avoir cette conviction, cette certitude que Dieu existe, qu'il vous aime, qu'il a un plan pour votre vie, que l'univers n'est pas livré au hasard cosmique et à n'importe quoi, mais qu'il y a un Dieu derrière tout ça. Là, Moïse leur rappelle tous les miracles que Dieu a dû faire pour les libérer d'Égypte, le passage de la mer Rouge, la mer des Joncs, le fait qu'ils ont eu de quoi manger, ils avaient la manne, chaque jour, fraîche. Ils ont eu des chaussures, des vêtements, super, ultra résistants. Ils n'ont même pas eu besoin d'en changer pendant 40 ans. Il est dit que dans 1 Corinthiens 10, 4, on a vu qu'ils étaient suivis par un rocher spirituel. Ce rocher, c'était Christ. Christ, la présence de Christ était là. Et on sait qu'il y a toute une symbolique qu'en fait, pour être rafraîchi dans le désert, il leur suffisait de parler au rocher. Ils n'avaient pas besoin de frapper le rocher. Moïse avait dû frapper le rocher une première fois, mais la deuxième fois, il devait simplement parler au rocher, c'est-à-dire parler à Christ. Ce fait de frapper le rocher, ça correspondait bien sûr au fait que Jésus a dû être frappé à mort, que son corps a été déchiré en deux. Mais ensuite, il suffisait de lui parler parce qu'il est un sacrifice unique, offert une fois pour toutes. Et nous aussi, pour être rafraîchis chaque jour, il n'y a pas besoin de crucifier Christ de nouveau. C'est ce que l'Église catholique fait. Chaque messe, en fait, est une répétition du sacrifice. Le prêtre brise l'hostie, c'est un rappel. Non, une fois pour toutes. Le sacrifice a été offert, et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de parler au rocher, de parler à Christ. Si dans ma vie, j'ai des difficultés, je cherche du travail, je cherche un logement, je souffre de maladies, je suis las, je suis fatigué, le futur n'a pas l'air très, très brillant, je peux parler au rocher. Je peux parler à Jésus. Et lui, il va me rafraîchir, il va m'encourager. Moïse leur rappelle leur victoire en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe. Pour ceux qui étaient là, quand on avait parlé des victoires sur le roi Sion, roi de Heshbon, et Og, roi de Bazan. On a dit que c'est vrai que dans le sport français, maintenant, on fait souvent allusion aux victoires que l'équipe de France a remportées en foot, dans la Coupe du Monde, dans la Coupe d'Europe, et que ces victoires, ça sert un peu de motivation pour dire « Oui, vous êtes capable de le faire, oui, vous pouvez gagner, il n'y a pas de problème. » De la même façon, les victoires contre Og et Sion, elles sont répétées dans toute la Bible, dans les psaumes, parce que c'était un souvenir, Dieu voulait leur rappeler qu'avec Dieu, toutes les victoires sont possibles. Et puis verset 9, il dit « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Est-ce que vous avez envie de réussir dans ce que vous faites? Allô? Oui? Ouais, il y en a qui veulent échouer dans ce qu'ils entreprennent? On dit non, bien sûr, ça fait rire. Mais pourtant, ici, on a la recette, en quelque sorte, entre guillemets. Si vous voulez réussir dans tout ce que vous entreprenez, alors observez la parole de Dieu. Observez, respectez, obéissez au commandement de Dieu. Et ça, c'est un grand principe. Que la vraie prospérité, elle résulte de l'obéissance à Dieu. Un auteur anglais disait « La simple obéissance à la parole de Dieu a toujours été, est encore et sera toujours le réel et profond secret de toute vraie prospérité. » Il ajoute bien sûr « Pour le chrétien, la prospérité ne consiste pas en des richesses spirituelles, terrestres et matérielles, mais en richesses célestes et spirituelles. Alors encore une fois, Dieu peut choisir de bénir physiquement, matériellement, et Dieu merci pour les chrétiens qui ont été bénis de la sorte et qui peuvent aider à la propagation de l'évangile en soutenant d'autres personnes financièrement. Encore une fois, Dieu n'est pas contre la prospérité, il est par contre absolument contre la recherche de la prospérité à tout prix en utilisant la parole, en utilisant son nom. Et c'est vrai que on le voit, c'est une banalité de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Certains ajoutent en disant oui, mais ça y contribue. C'est vrai que nous avons des besoins physiques, nous avons des besoins matériels. Et Dieu est fidèle de pourvoir à ces besoins. Si nous le recherchons d'abord, il l'a promis. Il a dit, cherchez d'abord ma justice et mon royaume, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Mais encore une fois, la vraie prospérité, c'est la richesse d'une relation avec Dieu. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous pensiez qu'une fois que vous auriez cet appareil, ce magnétoscope, ce téléviseur, cette bicyclette, alors là, tout allait être merveilleux. Puis le jour est arrivé où la machine, l'appareil est arrivé, et vous avez réalisé qu'en fait, il y a toujours les mêmes problèmes au fond de votre cœur. Il y a toujours l'impatience, la colère. Et c'est la vraie richesse, c'est dans notre relation avec Dieu. C'est lorsque on laisse Dieu prendre le contrôle de notre vie. Il y a cette paix, il y a cette richesse, il y a cette joie, il y a cette paix de notre conscience que rien ne peut acheter. Et on le sait, c'est une banalité, les milliardaires qui se suicident, les personnes célèbres qui vont prendre de la drogue parce qu'ils en peuvent plus. Encore une fois, le message que l'on trouve dans l'Ancien Testament, l'obéissance conduit à la vraie prospérité, c'est un message qu'on retrouve dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament. Jean 15, si vous voulez vous y tourner. Jean 15, un passage bien connu, verset 7 par exemple. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que vous les respectez, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Là aussi, ça, c'est une promesse incroyable. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors j'en vois déjà qui disent, oh mais c'est chouette, cette Maserati rouge. Non, il a dit avant, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Ça, pour Dieu, c'est un garde-fou. Il sait que si nous sommes en communion par sa parole, si nous prions, si nous recevons sa parole, alors tout ce que nous allons vouloir, ça va être des bonnes choses qu'il va pouvoir honorer. Ça va être d'aider les autres, ça va être d'annoncer l'évangile, ça va être de fortifier le royaume de Dieu par nos ressources, si faibles soient-elles. Et donc, si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est une promesse, encore une fois. Une promesse irrévocable, une promesse sur laquelle vous pouvez fonder votre vie. Mon Père, verset 8, est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Encore une fois, on a tendance à dire les 10 commandements, on n'arrive pas à les respecter, donc la loi c'est passé. Encore une fois, les 10 commandements, c'est l'idéal de Dieu. Et la loi de l'Éternel est parfaite. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'on a besoin de Dieu pour apprendre à vivre ces 10 commandements. Mais l'idée qu'on peut se débarrasser des 10 commandements et de la loi de Dieu, c'est complètement faux. Bienvenue, nos amis. You speaking French? Okay. Maybe Ronnie can help. Ah. Il y a une chaise ici. Il y en a une. Verset 4, revenons à Deutéronome 29, 4. Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne nous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Maybe you want to come closer, because with the fan it's pretty noisy. Et ça, c'est une grande vérité. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont vu des miracles incroyables. Mais pourtant, pour certains, ils ont pas encore un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Souvent, on entend les gens dire « Toi, tu crois à Dieu, c'est bien. Moi, si je voyais un miracle, alors là, j'y croirais. » On sait que c'est faux. Même dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui guérit des malades, qui va, plein de compassion, faire des miracles pour aider les gens autour de lui, pas pour se faire remarquer. Et quand il demande à ces gens s'ils veulent le suivre, la plupart retournent en arrière. Même un miracle ne peut pas nous convaincre. Qu'est-ce qui peut nous convaincre? Dieu seul peut nous convaincre. On a un problème de cécité spirituelle, aveuglement. Et seul Dieu peut ouvrir les yeux. Paul disait, on a souvent parlé dans 2 Corinthiens 4, que notre évangile est encore voilé pour ceux qui périssent. Et pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Et donc, ça c'est un verset que l'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Paul l'utilise dans Romains 11. Le prophète Ésaïe l'utilise souvent, 29, 10, 44, 18. L'idée que on est aveuglé et qu'on ne peut pas comprendre Dieu comme ça. Jésus expliquait à Nicodème, il faut naître de nouveau. L'homme a été créé en trois parties, esprit, âme et corps, avec le péché originel, l'esprit est mort. Pour communiquer avec Dieu, la seule façon, c'est par l'esprit. Une façon profonde. On peut communiquer avec Dieu par les rituels, les choses. Il faut que l'esprit renaisse. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait de l'évangélisation, il est absolument critique, indispensable de prier, de demander à Dieu de toucher les esprits, de toucher les gens en leur parlant. On peut essayer de convaincre les gens. Il y a une raison d'avoir des arguments logiques, c'est ce qu'on appelle l'apologétique, pour présenter la possibilité, la réalité de Dieu. Mais la conversion, ce n'est pas l'aboutissement d'une équation. On ne peut pas convaincre par nos raisonnements humains quelqu'un de la réalité de Dieu, de la réalité de Jésus-Christ. Par contre, Dieu a envoyé son Esprit Saint pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et je sais que la campagne qui a eu lieu avec Paul et son équipe, a vraiment été plongé dans la prière. Et on a vu du fruit. Gloire à Dieu. On aurait pu faire. Nous avons trop tendance, parce que nous voulons agir. Nous voulons remplir des calepins avec des choses à faire. C'est plus facile des fois de prendre la voiture, d'aller à droite, de revenir à gauche, de téléphoner, de réserver, de ceci, de cela, que de prendre le temps de prier. Quand je vous dis ça, je me prêche à moi-même. Est-ce qu'on croit à la prière? Est-ce qu'on croit à Dieu? C'est pour ça que, pour moi, le baromètre, en quelque sorte, de la santé de l'Église, c'est le jeudi soir. C'est pas le dimanche matin, c'est pas le mercredi soir, c'est le soir où on se réunit pour prier. Parce que ça veut dire que vous êtes convaincu que la façon de voir Dieu agir, c'est en lui demandant dans la prière. Alors, je suis heureux de vous voir le mercredi, de vous voir le dimanche. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est votre relation avec Dieu. Et c'est la confiance que vous avez dans la prière. Et c'est vrai que c'est un combat, la prière. Il est souvent utilisé l'allusion, c'est une arme redoutable pour l'ennemi, la prière. Et Satan va tout faire pour éloigner l'arme de la prière. Vous avez déjà vu dans les films de western, les combats. Croyez. Quand il n'y a plus qu'un pistolet par terre et que les deux personnes essayent de se battre pour l'atteindre. Et souvent, il y en a un qui, le méchant, qui essaye de faire partir le pistolet le plus loin possible. C'est ce que Dieu c'est plutôt ce que Satan va essayer de faire lorsque vous voulez prier. Il va faire sonner le réveil. Il va y avoir un coup de téléphone. Au soudain, il va y avoir une idée qui va être très urgente. Tout un tas de raisons. Mais encore une fois, c'est parce qu'il sait que l'arme de la prière, c'est une arme redoutable. Et dans l'évangélisation, il faut savoir que les gens sont aveuglés. C'est frustrant parce que nous, ça nous paraît tellement clair. On a compris, c'est évident. On n'est pas là par hasard. Dieu nous aime, Dieu a donné son Fils. S'il a donné son Fils, il va tout nous donner avec, on peut lui faire confiance. Mais il faut savoir que pour ceux qui ne sont pas des nouveaux, il y a cette voile. Et donc, il faut réaliser cela. Et puis, dans ce long sermon, Moïse continue en leur disant que ils vont entrer dans le pays, la terre promise. Et que cette alliance, verset 15, elle est établie pas seulement avec eux, verset 13, ce n'est pas avec vous seuls que je conclue cette alliance avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous aujourd'hui. Encore une fois, Dieu n'a pas de préférence. Dieu aime autant les bouddhistes, les musulmans que les chrétiens. Il aime les grands, les petits, les blancs, les noirs, les jaunes. Il les aime tant qu'il est mort pour chacun d'eux. Et en ce qui concerne l'amour de Dieu, nous sommes tous à égalité. Il nous aime tous autant. Bien sûr, son désir, c'est que nous répondions à cet amour par la connaissance de la vérité. Que nous abandonnions les fausses religions. Que nous abandonnions les sectes. Les philosophies fausses qui nous matraquent continuellement dans notre société. Les petits, les grands, Dieu les aime tous. Et cette alliance, il veut la faire même pour ceux qui ne sont pas encore là. Donc là, on pense qu'il parle des générations futures. Et ça nous parle aussi de notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants, de leur parler de Dieu, de la réalité de Dieu, de la vérité. Et encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui prennent du temps pour s'occuper des enfants, de l'enseignement des enfants. Mike, Becky et tous ceux qui participent. Toujours le cœur réjoui de voir, c'était tout à l'heure, Nathanaël qui lisait sa Bible. Avec plein de zèle, parce que sa maîtresse lui a dit qu'il fallait qu'il lise. Ça réchauffe le cœur de dire, tiens, voilà, un jeune, un enfant qui lit des bonnes choses, qui vont le bâtir. Donc nous aussi, nos enfants, c'est vrai que c'est plus facile quand ils sont petits, souvent, parce qu'ils ne sont pas encore influencés par tout le reste. Et je sais que vous le faites, mais c'est un moment privilégié pour leur inculquer la vérité. Instruisez un enfant dans les voies du Seigneur, même s'il s'en écarte, il pourra revenir. Moïse, comme Dieu, met en garde contre l'idolâtrie. Verset 15. Vous savez vous-même comment nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. qu'il n'y ait donc parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller rendre un culte aux dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Encore une fois, l'idolâtrie, c'est pas seulement de se mettre à genoux devant des statuettes. C'est donner une seconde place à Dieu dans notre vie. Les bonnes choses peuvent devenir des idoles. Le travail peut devenir une idole. Notre famille peut devenir une idole. Plein de bonnes choses. Et Satan, c'est sa technique, le diable. Il prend une vérité et il la tourne à l'extrême. Oui, c'est bien de travailler. Il faut travailler le plus possible. Moins de repos et mieux ça vaut. 7 jours par semaine, 15 heures, 16 heures, 18 heures de travail. Le travail est devenu une idole. Et il dit une chose intéressante, il dit que l'idolâtrie c'est comme une racine empoisonnée. Verset 17, qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. L'absinthe, c'est un produit amer utilisé comme alcool, avec l'alcool au siècle dernier. Mais l'idée, c'est qu'il y a des racines qui vont produire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un jardin, vous avez dû vous occuper d'un jardin. Il n'y a pas besoin de planter les pissenlits. On ne sait pas d'où ils viennent, mais ils ne sont pas longs à venir. Et on peut creuser pour enlever la racine. On avait un jardin quand on habitait à Seattle, c'était plus un champ de pissenlits qu'autre chose. Je disais, après tout, c'est joli la couleur jaune. Mais c'est vrai que ça pénétrait tout le sol. Il y avait des racines de partout, des racines profondes. Si on coupait, si on arrachait, il restait toujours un petit bout. Il fallait vraiment travailler dur sur chaque racine. Et ce que la parole nous dit, c'est que l'idolâtrie, ça commence de la même façon. C'est une petite graine, ça peut être une pensée, une occasion. Mais ça va commencer à grandir. Ça va commencer à se multiplier. Ça va commencer à étouffer. Jésus disait que la parole pouvait tomber dans les épines. Celui qui entendait la parole l'entendait. Mais les soucis du monde, la séduction des richesses, étouffaient la parole et la rendaient infructueuse. Et donc c'est cette idée que l'idolâtrie, ça peut commencer à dire, et c'est important quand même que je me soigne physiquement. J'ai l'air d'un gringalet, si j'avais les bras plus musclés, peut-être que j'aurais plus de succès. puis après on est comme Schwarzenegger. Et puis toute notre vie tourne autour de ça. Je ne crois pas que ce soit le cas parmi nous. Il y a des gens pour qui la salle de muscule, c'est l'église. Et on peut multiplier les exemples, l'idolâtrie, tout ce qui prend la place que Dieu doit occuper dans nos vies. C'est comme une racine empoisonnée. Il y a un autre endroit dans la Bible qui dit que, dans Hébreux 12, 15, que si on se prive de la grâce de Dieu, il peut y avoir des racines d'amertume qui vont produire des rejetons et causer du trouble qui va infecter. C'est toujours la même idée. Là aussi, c'est l'idée que ça commence petit, mais ça va grandir. Et ça affecte tout. Peut-être que le Seigneur veut vous parler, vous montrer quelque chose, quelques points dans votre vie qui sont des idolâtries. Alors, c'est peut-être pas très grave en ce moment, mais est-ce que ça n'a pas tendance à prendre de plus en plus de terrain? Il n'y a qu'une bonne racine dans la Bible. C'est la racine d'Isaïe. Jesse. C'est une façon, une expression pour désigner Jésus lui-même. Mais toutes les autres racines peuvent être empoisonnées, comme l'idolâtrie. Verset 18, que personne après avoir entendu les paroles de ce serment ne se flatte dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants obstinés de mon cœur en ajoutant l'ivresse à la soif. » Ça, c'est un avertissement solennel. Ça consiste à croire qu'en fait, les commandements de Dieu, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et de se dire que, peut-être parce que j'ai une famille, je suis issu d'une longue tradition chrétienne. Mes arrière-grands-parents étaient camisards. Huguenots. Je porte la croix huguenote autour du cou. Ou ça peut être de dire j'enseigne la Bible. Et c'est bien sûr, il faut mettre des garde-fous pour le commun des mortels, mais moi je suis au-dessus de ça. Et de se dire que même si j'obéis pas à Dieu, il va continuer de me bénir. C'est très grave. Parce que c'est une illusion complète. C'est un mensonge de l'ennemi. Au pied de la croix, nous sommes tous au même niveau. Devant Dieu, nous aurons tous à rendre des comptes un jour. Et la personne qui pense être au-dessus des commandements de Dieu, elle dit qu'elle se flatte dans son cœur. Pierre, ça va, tu enseignes. Je suivrai les penchants obstinés de mon cœur. Nos cœurs ne sont pas fiables. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et Dieu dit qu'il est incurable. C'est Jérémie 17, 9. Suivre les penchants de son cœur, ça peut être très dangereux. Si Jésus n'est pas dans notre cœur pour le diriger, pour nous donner nos nouveaux désirs, les désirs de notre cœur. Quelque part, ce que mon cœur désire, au naturel, c'est d'ajouter l'ivresse à la soif. Qu'est-ce que ça veut dire, ajouter l'ivresse à la soif? On sait qu'il est dit, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Ça, c'est la philosophie du monde, ça. C'est très dangereux d'ajouter l'ivresse à la soif. Encore une fois, ça veut dire que nos appétits naturels légitimes sont détournés par Satan, par la chair, par le monde, en des perversions. La soif, c'est une bonne chose. C'est un sentiment qui fait que on va aller boire des liquides, de l'eau, qui va nous rééquilibrer le métabolisme. Mais si on commence à dire, oh, l'eau pure, c'est pas aussi bon qu'avec un peu de pastis 51. Et puis que de plus en plus, c'est l'alcool qui nous attire, alors on va ajouter l'ivresse. Comme on disait, le travail c'est une bonne chose, passer sa vie au travail c'est une mauvaise chose. On peut ajouter la gloutonnerie à la faim. C'est-à-dire que la faim qui est une bonne chose, qui nous conduit à manger, on peut dire ça dirige ma vie et maintenant tout ce que je fais c'est manger, faire la cuisine, préparer. Se reposer, encore une fois, c'est une bonne chose. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Nous avons besoin de nous reposer. Mais l'extrême, c'est d'ajouter la paresse au repos. Oh, vaut mieux se reposer avant de commencer. On va prendre une petite break entre temps, petite sieste, et puis se reposer après. Encore une fois, c'est ce que Satan aime faire, à partir de choses légitimes. L'appétit sexuel est une bonne chose donnée par Dieu. Et ça peut devenir une obsession si c'est pas contrôlé, si c'est pas exercé dans le cadre du mariage. Et si vous n'en êtes pas convaincu, il suffit de regarder les posters dans la ville, de voir les publicités. Nous sommes une société obsédée par le sexe. Comme l'était la société romaine avant qu'elle ne se désagrège. Les idoles. Ajouter l'ivresse à la soif. Et dans la Bible, il y a un grand principe qui est le principe de la moisson. Paul, dans Galates 7 et 8, chapitre 6 disait « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et donc le principe de la moisson, c'est trois choses. « ce qu'on récolte est de même nature que ce qu'on a semé. On ne plante pas du blé en espérant trouver des pommes à la fin. Et là, spirituellement, c'est la même chose. Si on sème à la chair, c'est-à-dire si on fait des choses qui encouragent notre chair, qui répondent à ses attentes, ses exigences, alors on va récolter la corruption de la chair. Une vie dissolue peut conduire à une vie de maladie. Par contre, si on sème pour l'esprit, c'est-à-dire qu'on cherche à bâtir notre vie spirituelle par la prière, la lecture de la parole, la participation à la communion fraternelle, alors on moissonne de l'esprit la vie éternelle. Même nature que ce qu'on a semé, le premier point. Un deuxième point, c'est que la récolte, ça prend du temps. Et ça peut être dangereux parce qu'on se dit, mais rien de mauvais m'est arrivé. Donc je peux continuer à tricher sur mes impôts. Tricher avec ma femme, contre ma femme. Il ne s'est rien passé. La moisson prend du temps. Mais la moisson va arriver. Et la troisième principe de la moisson, troisième point dans le principe de la moisson, c'est qu'on récolte plus que ce qu'on a semé. Heureusement pour les paysans. Mais pour nous, ça peut être grave parce que si on a semé pour la chair, alors la corruption qu'on va récolter, ça va être encore pire. On se dit peut-être, oh, c'était juste quelques petites pensées impures, quelques petites pensées, quelques petites habitudes, c'était pas bien grave. Mais en vertu du principe de la moisson, ça va donner de mauvais résultats, bien plus importants. Par contre, si on sème pour l'esprit, alors la moisson, elle aussi, sera plus abondante que ce qu'on a pu semer. Peut-être que les quelques paroles qu'on aura partagées avec nos voisins, nos parents, un jour, on verra le fruit qu'elles ont porté. Et donc, Moïse, parlant au nom de Dieu, nous met en garde contre l'idée d'ajouter l'ivresse à la soif, de se croire au-dessus des commandements de Dieu. Il continue verset 19 en disant que l'Éternel ne voudra pas lui pardonner, la colère, la jalousie de l'Éternel s'allumeront contre cet homme, toute la malédiction écrite dans ce livre s'abattra sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Wow. Et il continue en disant qu'il y aura de tels malheurs sur le pays, sur cet individu, et ce qui va affecter aussi le pays, il y aura du soufre, du sel, de l'embrasement, verset 22. Que les gens, ils prophétisent que les nations diront « Mais pourquoi est-ce que l'Éternel s'est acharné contre ce pays d'Israël ?» Et l'on répondra « C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance conclue avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. » C'est parce qu'ils sont allés rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne leur avaient pas donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays. Il a fait venir sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Donc Moïse voit malheureusement la prophétie du rejet de Dieu par Israël. Et comment il allait les rejeter de leur pays. On sait que l'histoire d'Israël, ça a été les exils, la diaspora, la répartition.